gouvernement civil. Selon un diplomate français, Hemeti joue sur l'antagonisme entre le centre et les périphéries. Originaire du Darfour, il tente de se présenter comme le porte-voix des régions périphériques, quitte à payer de sa poche. Il faut dire que le commandant des forces de soutien rapide en a les moyens. Il est à la tête d'un véritable empire dans le secteur minier, l'or, l'import-export ou les transports. Hemeti est riche et puissant. Il dirige une milice de plus de 40 000 soldats, selon différentes estimations. Pourtant, l'homme est fragilisé. En effet, de nombreux acteurs, et notamment le général Al-Burhan, souhaitent intégrer ses forces au sein de l'armée régulière. Les États-Unis multiplient également les pressions en ce sens. Comme un symbole.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous lire le roman Les Impatientes, écrit par Djaïli Amadou Amal. L'auteur est une femme peule qui a été mariée à 17 ans à un homme de 55 ans très fortuné. À 23 ans, elle le quitte, puis une dizaine d'années plus tard, elle se sépare d'un second mari violent, vend ses bijoux en or pour acheter un ordinateur et un bureau et commence à écrire. C'est une thérapie pour cette jeune femme qui milite par ailleurs pour la libération des filles et des épouses et leur accession à l'éducation. Elle crée d'ailleurs une association, Femmes du Sahel, en 2012. Remariée à un écrivain et ingénieur avec lequel elle a deux autres enfants, elle vit désormais à Douala. En 2019, elle est lauréate du premier prix Orange en Afrique avec son dernier roman paru en 2017 sous le titre Munial, Les larmes de la patience. Elle l'a retravaillé pour être lu plus facilement hors du continent africain. Paru en septembre 2020 sous le titre Les Impatientes, il a obtenu par la suite le prix Goncourt des lycéens. Il connaît depuis lors un grand succès. Ce texte est composé de trois histoires de vie, celle de Ramla, mariée de force à 17 ans à Adjali Issa, l'homme le plus important de la ville, puis celle d'Hindou, sa sœur, mariée le même jour avec Moubarak, leur cousin, qui se révélera violent, et enfin l'histoire de Zafira, la première épouse d'Adjali Issa.
Ramla.
Patience, mes filles. Munial, telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, du poulakou. Intégrez-la dans votre vie future. Inscrivez-la dans votre cœur, répétez-la dans votre esprit. Munial, vous ne devrez jamais l'oublier, fait mon père d'une voix grave. La tête baissée, l'émotion me submerge. Mes tantes nous ont amenés, Hindou et moi, dans l'appartement de notre père, À l'extérieur, l'effervescence de ce double mariage bat son plein. Les voitures sont déjà garées, les belles familles attendent, impatientes. Les enfants, excités par cet air de fête, crient et dansent autour des véhicules. Nos amis et nos sœurs cadettes, inconscientes de l'angoisse dans laquelle nous sommes, se tiennent à nos côtés. Elles nous envient, rêvant du jour où elles seront aussi les reines de la fête. Les griots, accompagnés de joueurs de luth et de tambourins, sont là. Ils chantent à tue-tête des louanges, en l'honneur de la famille et des nouveaux gendres. « Mounial, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les patientes, répète mon père imperturbable. J'ai aujourd'hui achevé mon devoir de père envers vous, je vous ai élevée, instruite, et je vous confie ce jour à des hommes responsables. Vous êtes à présent de grandes filles, des femmes plutôt. Vous êtes désormais mariées et devez respect et considération à vos époux. » Une heure plus tard, ma coépouse vient me souhaiter la bienvenue. Sous mon voile, je la dévisage. Contrairement à ce que je m'étais imaginé, elle n'est pas âgée, c'est une femme à la trentaine, épanouie, d'une grande beauté. J'aurais aimé m'en faire une alliée, mais le regard qu'elle pose sur moi me l'interdit. Elle semble me détester avant même de me connaître. Elle aussi est entourée des femmes de sa famille, arborant des sourires de bienséance. Deux camps se toisent, se scrutent en un duel feutré, où l'on devine une hypocrisie mielleuse. Ma coépouse est parée telle une mariée, un pagne étincelant, de belles tresses, les mains et les pieds ornés de tatouages aînés. Mais je sens qu'elle fait un énorme effort pour rester calme. Ses lèvres affichent un léger sourire qui ne cache pas la tristesse de ses yeux. On dit qu'elle a fait une dépression à l'annonce de ce mariage, qu'elle a passé des journées entières à pleurer. Sans doute s'est-elle ressaisie grâce au soutien de sa famille, ou a-t-elle tout simplement admis que rien ni personne ne pourrait détourner son époux de ce projet de mariage dont toute la ville a fait des gorges chaudes? Ses yeux m'inspectent et me transpercent. Nos regards se toisent, et la haine que je lis dans les siens me fait baisser les miens. Ma belle-sœur se tourne ensuite vers moi. « Ramla, tu es maintenant la petite sœur de Saphira, sa fille, et elle est ta mère. Tu lui dois obéissance et respect. Tu te confieras à elle, lui demanderas conseil, suivras ses ordres. Tu es la cadette. Tu ne prendras pas d'initiative relative à la gestion de la concession sans l'avis de ta Daada Saré. C'est elle la maîtresse de maison. Tu n'es que sa petite sœur. À toi les tâches ingrates. Obéissance absolue, patience devant sa colère, respect. Mounial, mounial. » Nous écoutons en silence, nous contentant de secouer la tête en signe d'acquiescement. Ramla semble accepter cette situation. Cependant, son tempérament indépendant ne peut y consentir. « Moi, je suis différente, je l'ai toujours été. Pour ma mère, c'est comme si j'étais une extraterrestre. Quand mes sœurs tombaient en pamoison devant les beaux pagnes multicolores que l'employé principal de notre père apportait chaque année pour la fête de fin du Ramadan et se disputait afin de s'arracher la couleur qui leur irait le mieux, j'arrivais bonne dernière, prenais le pagne dont généralement personne ne voulait et m'en allais d'un air ennuyé me replonger dans mes livres. Quand mes sœurs abandonnaient leurs études le plus tôt possible sans chercher à désobéir à mon père, et quand elles acceptaient d'épouser l'homme que lui ou l'un de mes oncles avait choisi pour elles, car elles s'intéressaient davantage aux aspects matériels du mariage, les cadeaux ou le design de leur futur intérieur, je m'obstinais à aller au collège. Et j'expliquais aux femmes de la famille mon ambition de devenir pharmacienne, ce qui les faisait rire aux éclats. Elles me traitaient de folle et vantaient les vertus du mariage et de la vie de femme au foyer. Quand je renchérissais sur l'épanouissement qu'une femme trouverait dans le plaisir d'avoir un emploi, de conduire sa voiture, de gérer son patrimoine, elles interrompaient brutalement la conversation en me conseillant vivement de redescendre sur terre et de vivre dans la vraie vie. Pour elles, le plus grand bonheur était de se marier à un homme riche qui les mettrait à l'abri du besoin, leur offrirait des pagnes et des bijoux, ainsi qu'une maison pleine de bibelots et de domestiques. Une vie d'oisiveté qu'elle passerait entre les quatre murs d'une belle concession. Car un mariage réussi se compte dans le nombre de parures en or qu'on affiche avec ostentation à la moindre opportunité festive. Et une femme heureuse se reconnaît à ses voyages à la Mecque et à Dubaï, à ses nombreux enfants et à sa belle décoration intérieure. Le meilleur époux n'est pas celui qui chérit, mais celui qui protège et qui est généreux. Il est inconcevable que les choses soient autrement. Aux grandes dames de ma mère, certaines que seul le mariage convenait à une femme, et dans l'indifférence totale de mon père, qui ne savait jamais rien de nos activités, je me révélais très douée. Moi, j'ai 17 ans, et je suis en terminale scientifique d'enseignement général. Depuis le CM2, j'ai vu toutes mes amies et mes camarades de classe se marier les unes après les autres. Au cours préparatoire, nous étions une cinquantaine, à présent nous ne sommes plus que 10. Mais pour moi, comme pour les autres, c'est juste une question de temps. Depuis mes 13 ans, une foule de prétendants me fait la cour. Je réponds aux normes de beauté chez nous, teint clair, presque blafard, cheveux soyeux et longs, très fins. Invariablement, quand l'un d'eux m'aborde, je lui demande d'attendre. Toujours la même réponse, comme une litanie. « Oui, je veux bien t'épouser, mais pas tout de suite. Comprends que je vais encore au collège, peut-être dans 2 ou 3 ans. » La coutume interdit aux filles de conduire un prétendant. Même si l'on n'est pas intéressé, on doit quand même éviter de froisser un homme. Mais un jour, à la surprise générale, je n'ai pas refusé. Il s'appelait Aminou. C'était le meilleur ami de mon frère Amadou. Il venait souvent à la maison et nous avions sympathisé. Il était le seul garçon à qui j'adressais la parole sans subir les représailles de mes frères qui s'étaient autoproclamés nos surveillants. Il étudiait la télécommunication en Tunisie et espérait devenir ingénieur. Quand son père avait demandé ma main, mon père n'avait trouvé aucune raison de dire non. Ma mère était aux anges, je n'avais opposé aucune résistance. Enfin. Et pour moi, c'était un doux rêve. Bientôt, lui et moi, nous allions nous marier. Bientôt, dans quelques années, à l'université de Tunis, lui deviendrait ingénieur et moi pharmacienne. Nous serions heureux, loin de tout, loin d'ici. Mes rêves n'ont pas duré longtemps. Quand oncle Ayatou a informé mon père que leur plus grand partenaire dans les affaires avait demandé ma main et qu'il la lui avait accordée, celui-ci non seulement s'inclina, mais il le remercia chaleureusement. Ma mère fut chargée de m'annoncer la nouvelle. La gravité de son visage me fit craindre le pire et je me levai immédiatement. « Mère, que se passe-t-il ? » ? Rien de grave, bien au contraire, rien que du bonheur. Ta bonne fortune se réveille. Enfin, je pourrai relever la tête avec fierté et cela grâce à toi. Enfin, ma dignité est assurée. Mais je ne suis pas si surprise. Je savais que tu devais avoir une vie exceptionnelle. Quoi donc ? Ton oncle Ayatou a accordé ta main à un autre. Tu n'épouseras plus Aminou, ton père te le fait savoir. Qui sait ? Aladji Issa, l'homme le plus important de la ville, tu gagnes au change. Ma seule inquiétude, c'est qu'il a déjà une épouse. J'aurais voulu t'épargner la polygamie, moi qui en souffre tous les jours. Mais de toute façon, si tu ne trouves pas une femme en entrant dans un foyer, tu es rattrapé par une autre, fatalement, tôt ou tard. Mieux vaut finalement en trouver une que d'en attendre une autre. Une nouvelle qui fera pâlir d'envie et de jalousie plus d'une dans ce repaire de louve. Il me faut déjà penser à te protéger de tes sorcières de marâtre. Mais Didi, je ne le connais pas. Lui, il te connaît. Apparemment, il a beaucoup insisté pour t'épouser. Ton père en est très fier, tu sais. Mais j'aime Aminou, c'est avec lui que je veux me marier. L'amour n'existe pas avant le mariage, Ramla. Il est temps que tu redescendes sur terre. On n'est pas chez les Blancs ici, ni chez les Hindous. Tu comprends pourquoi ton père ne voulait pas que vous regardiez toutes ces chaînes de télé? Tu feras ce que ton père et tes oncles te diront. D'ailleurs, as-tu le choix? Épargne-toi des soucis inutiles, ma fille. Épargne-moi aussi, car ne te leurre pas. La moindre de tes désobéissances retombera invariablement sur ma tête.
pas attendu d'être mariée pour suivre ce conseil de mon père. J'ai toujours entendu ce fameux Mounial. Que de préjudice subi. Je me demande quand j'ai entendu ce mot pour la première fois. Probablement dès ma naissance. On avait alors dû me chantonner. Patience, Mounial, mon bébé. Tu viens dans un monde fait de douleurs. Petite fille si jeune et si impatiente. Tu es une fille. Alors, Mounial. Toute ta vie. Commence dès maintenant. Il est court le temps du bonheur pour une femme. Patience, ma fille, dès maintenant. Ma main cherche celle de ma sœur Ramla, s'y accroche fermement, mais le temps des conseils que doit nous prodiguer notre père avant de nous laisser partir arrive à sa fin. Mes tantes m'entraînent déjà vers la sortie. À cette minute ultime, j'aurais voulu me réfugier sous le lit de ma mère. J'aurais voulu me raccrocher à elle jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais voulu ramper aux pieds de mon père au mépris de cette patience tant conseillée, n'écoutant alors que ma terreur pour le supplier de bien vouloir renoncer à ce mariage, et j'aurais donné jusqu'à mon dernier souffle pour entendre mon père dire simplement « Tu es trop jeune, Moubarak devra attendre. » Peine perdue, je suis mariée à Moubarak. Ce cousin que j'ai toujours vu, mais jamais connu. Il habite à quelques pas de chez nous. Sans doute a-t-il dû m'appeler son esclave ou son épouse quand j'étais petite. Je le voyais depuis toujours. Il était presque mon frère. Je suis mariée à Moubarak et j'appartiens désormais à la concession de mon oncle Moussa. En vérité, j'ai toujours appartenu à la concession de l'oncle Moussa. La solidité des liens familiaux faisait de chacun de mes oncles un second père. La maison de chacun d'eux était la mienne et je pouvais non seulement y aller autant que je le désirais, mais je pouvais même y vivre sans avoir à requérir l'autorisation de mes parents. Mais ce soir, on m'a emmenée chez l'oncle Moussa, non pas comme une fille, mais comme une bru. Oh mon père, pourquoi moi ? Te serait-il venu à l'esprit que je pourrais ne pas être d'accord et que j'en avais le droit? Je n'aime pas Moubarak. Pire, je le déteste. Avant, quand on était plus jeune, il m'était complètement indifférent. Il n'était qu'un de mes cousins, un parmi les dizaines de cousins que j'avais. Il n'était ni bon, ni mauvais, ni meilleur, ni pire. Jusqu'au jour où il a commencé à boire et à prendre de la drogue. Et a fini par franchir le Rubicon en violant la domestique de sa mère. Dès lors, il est devenu le pire de tous. Mais c'était sans compter le jour où ma mère m'a annoncé que je lui avais été promise. J'ai commencé à haïr Moubarak le jour où, le rencontrant par hasard, alors que je rendais visite à ma meilleure amie, sa sœur, il m'a apostrophé. « Hey, Hindou, ma future femme, tu viens rendre visite à ton fiancé ?» Ah, bien sûr que non, qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens là, on consomme les fiançailles, à défaut de consommer déjà le mariage. Moubarak m'a alors entraîné vers sa chambre. Je me suis débattue pour qu'il me lâche, mais il a commencé à m'embrasser sans vergogne. Je l'ai mordu violemment, écœuré par son odeur fétide. Il sentait l'alcool. Profitant d'un instant d'inattention, je me suis échappée. Il était fou de rage et jurait. « Espèce de petite peste, tu m'as mordu, mais tu verras, tu ne paies rien pour attendre. » Depuis ce jour, je l'ai évité, et s'il arrivait que je le rencontre par hasard, il me saluait, souriant, puis avec un clin d'œil de malice, il me rappelait qu'il était impatient de m'épouser. J'étais de plus en plus mal à l'aise, et au fil des jours, mon malaise s'est transformé en panique. J'appréhende mon mariage, et surtout la nuit de noces. Ramla me serre la main, cherchant à me communiquer un peu de sa force et de son courage. Déjà mon père conclut. Qu'Allah vous accorde le bonheur, gratifie votre foyer d'une progéniture nombreuse et de beaucoup de baraka. Allez-y. Alors je perds toute contenance et me laisse tomber au sol, en sanglots. Mon père ne dit mot, tandis que ma tante Dia s'évertue à me relever et m'oblige à sortir. Sortant de ma réserve et à la surprise générale, Je crie à mon père médusé. « S'il te plaît, Baba, je ne peux pas me marier avec Moubarak, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. » « Qu'est-ce que tu racontes, hindou ?»«
S'il te plaît, Baba, je t'en supplie, je ne veux pas de lui, j'accepterai n'importe qui, mais pas lui. »
Je continue à me débattre et j'arrive à m'échapper des bras de ma tante. Je tombe aux pieds de mon père.
« S'il te plaît, mon père, pour l'amour d'Allah, ne m'oblige pas à y aller. »
« Ça suffit, ces enfantillages !» fait alors mon oncle d'un sourire sarcastique.
« Tu me déçois beaucoup, hindou, toi qu'on disait si sage.
En vérité, tu n'as rien compris de tous les conseils qu'on vient de te donner. Allez-y, Lia, voilà suffisamment de scandales. »
Sanglotant toujours, j'obtempère quand les femmes me font sortir de force. Aidée par une cousine, Gogo Dia me pousse avec fermeté vers la voiture qui démarra en trombe comme pressée de fendre la foule. On entend les klaxons et les you-you des filles entassées dans les autres véhicules. Bien que la maison conjugale occupe un pan de la concession d'oncle Moussa et se trouve donc à quelques pas de chez mon père, Moubarak tient à ce que son mariage ne passe pas inaperçu. Toute sirène hurlante, il se lance à la tête du cortège auquel prennent part des dizaines de motos et de voitures et fait le tour de la ville. Dès qu'il entre dans la chambre, sans même un regard vers moi, Moubarak met de la musique. Assis sur le tapis dans le coin le plus obscur, je me recroqueville le plus possible. Ma crise de larmes m'a fatiguée, complètement abattue. Je sens ma gorge étranglée par l'angoisse.
Tiens, tiens, voilà ma cousine et épouse chérie. Tu viens? On va consommer le mariage vite fait. Je t'avais dit que cette journée arriverait rapidement.
S'il te plaît.
Arrête tes niaiseries et déshabille-toi vite. Je déteste les femmes pudiques.
Au comble de la terreur, je sais que rien ne se passe normalement. Moubarak n'a pas seulement bu, il a aussi avalé des comprimés de tramadol associés à du Viagra, un cocktail qui lui est familier comme chez beaucoup de jeunes ici. On en trouve à tous les coins de rue, aussi bien chez l'épicier du quartier que chez les vendeurs ambulants. Le soir des noces, les hommes n'hésitent pas à avaler des drogues pour se revigorer, s'assurer une certaine endurance et une virilité à la mesure de leur ardeur requinquée.
« Déshabille-toi, tu es ridicule sous tes voiles. »«
Je t'en supplie. »«
Tu veux jouer ? Ah, ben d'accord, on va le faire. »« C'est même mieux que tu résistes un peu, je me ferai un plaisir de te dénuder. »
Il monte le son de la musique, puis commence à se déshabiller tranquillement. Je recule encore plus dans le coin. J'ai tellement peur que je claque des dents et tremble comme une feuille. Il s'assied sur le lit, me jette un regard sans complaisance... Il lance.
Alors, tu viens de ton propre gré ou tu préfères que je vienne te chercher?
S'il te plaît. Il se lève brusquement et d'un mouvement imprévisible me jette brutalement sur le lit et arrache mes vêtements. Je me défends autant que je le peux. Quand il déchire mon corsage, je le mords farouchement. Il retire sa main d'où perlent des gouttes de sang. Furieux, il se met à me frapper. Je crie. Je me débats. Quand un coup violent m'assomme, je tombe en travers du lit. Quelques heures plus tard, je n'ai plus de force pour crier ni de larmes à verser. Le silence règne dans la chambre. J'ai tellement crié, tellement pleuré et supplié que je n'ai plus de voix. Je me ramasse sur le lit, meurtri, le corps couvert d'ecchymoses et d'hématomes. Je saigne tellement que le lit en est trempé. J'ai très mal. J'essaie de me lever. Moubarak, qui dort à côté de moi, se réveille aussitôt et me regarde d'un air narquois.
Bien dormi, chère cousine? Que dis-je, chère épouse? Ne bouge pas, surtout j'arrive.
Non, s'il te plaît.
Tu recommences encore tes fadaises, on dirait?
Pardon, je suis blessée, j'ai mal.
Mais non, c'est normal.
Il considéra le lit d'un air dégoûté et me tire vers le sol. Je tombe brutalement et me mets à crier. Il me bâillonne d'une main.
Il est très tôt et j'endorme encore. Tais-toi! Tu as suffisamment fait le bruit hier soir. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi poltronne. Dira-t-on pas que je t'ai tué? Cette fois, tu la fermes.
Il abuse encore de moi. La douleur est si vive que je tombe dans une bienveillante inconscience. Personne ne fut scandalisé de mon état. Ce n'était pas un crime. Moubarak avait tous les droits sur moi et il n'avait fait que se conformer à ses devoirs conjugaux. Il avait certes été un peu brutal, mais c'était un jeune homme en bonne santé et viril. En plus, j'étais belle comme un cœur. Il ne pouvait que perdre la tête face à tant de charme. Il était surtout très amoureux. Je méritais aussi des félicitations car j'avais su me garder pure. Je n'avais pas déshonoré ma famille.
Ce n'est pas un crime, c'est un acte légitime, le devoir conjugal. Ce n'est pas un péché, bien au contraire. Que ce soit pour moi ou pour Moubarak, c'est un bienfait accordé par Allah. Ce n'est pas un viol, c'est une preuve d'amour.
On conseilla tout de même à Moubarak de réfréner ses ardeurs, vu les points de suture que ma blessure nécessita. On me consola. C'est ça, le mariage. La prochaine fois, ça ira mieux. Et puis, c'est ça, la patience, le mounial dont on parlait justement. Une femme passe par plusieurs étapes douloureuses de sa vie. Ce qui s'était produit en faisait partie. Il ne me restait plus qu'à prendre des bouillies agrémentées de natron, ainsi que des bains chauds, afin d'accélérer mon rétablissement. Le devoir conjugal. On me cita un hadith du prophète. Malheur à une femme qui met en colère son mari, et heureuse est la femme dont l'époux est content d'elle. Je ferais mieux d'apprendre tout de suite à satisfaire mon époux. Le médecin ne s'en formalisa pas non plus. Ce n'était pas un viol. Tout s'était déroulé normalement. Je suis juste une nouvelle mariée plus sensible que les autres. Mon mari est jeune et amoureux. C'est légitime qu'il soit ardent. C'est habituel que ça se passe ainsi. D'ailleurs, qui a évoqué le mot viol? Le viol n'existe pas dans le mariage. Ainsi a-t-on soigné mon corps, mais pas mon esprit. Personne n'a pensé qu'il existait en moi des blessures plus profondes et plus douloureuses. On me répéta qu'il ne s'était rien passé de dramatique. Juste un fait banal, rien d'autre qu'une nuit de noces traumatisante. Mais toutes les nuits de noces ne sont-elles pas traumatisantes? On me dit aussi que je n'avais rien compris au conseil de mon père.
Safira, souviens-toi que personne ne doit soupçonner ton ressentiment. Personne ne doit deviner ton chagrin, ta rage ou ta colère. N'oublie pas, maîtrise de soi, sang-froid, patience. Je ravale mes larmes, lève les yeux au ciel pour les empêcher de couler. Ma tante reprend. Toutes ces femmes vont te dévisager, elles vont te toiser pour surprendre ton désespoir ou ton hostilité à son égard. Sans exception, elles n'attendront que le moment où tu défailliras. Tout se jouera à cet instant. Il suffit que tu montres ta peine pour qu'elles se moquent de toi. Il suffit que tu faiblisses une seconde pour que ta coépouse prenne le dessus à jamais. Il n'y a pas pire ennemi pour une femme qu'une autre femme. Ne leur donne jamais l'occasion de mal parler de toi. Contrôle-toi, reste forte, ne faiblis pas. Mounia, l'ajouta une amie de ma mère, c'est dans l'épreuve qu'on te conseille de patienter. Reste stoïque face à l'épreuve. Personne, Saphira, personne ne doit savoir que tu es triste. La jalousie est un sentiment honteux. Tu es trop noble pour le ressentir, n'est-ce pas? Mon époux a pris une nouvelle femme. Séduis-le par ton comportement généreux, par ta présence agréable, par ta cuisine savoureuse. Montre-lui qu'aucune femme ne pourra jamais te surpasser. L'avantage de la polygamie, c'est qu'elle te permet de tester son amour et ton pouvoir sur lui. Tu es sa première épouse. Toutes celles qui suivront ne seront jamais aussi précieuses que toi. Aucune ne pourra vivre ce que vous avez vécu. Aucune ne pourra lui donner des enfants comme toi tu lui en as donné. Tu es la privilégiée et tu le resteras toujours. Sa première épouse, la Dada Saré. Tu le partageras désormais, certes, mais un homme a-t-il jamais appartenu à une seule femme? Que fais-tu, Saphira? Mon souffle se fait court et j'adresse à Allah une prière muette, sans la conviction qu'elle sera exaucée. Mon Dieu, comment faire face à cette fille, à peine plus âgée que ma propre fille, et qui s'arroge le droit de me prendre mon époux? Comment pourrais-je le supporter? Comment montrer bonne figure comme l'exigent les convenances? Que faire pour ne pas perdre la face? Je ravale mes larmes et me penche sous l'eau du robinet. J'avale une gorgée et respire profondément plusieurs fois avant de calmer la cadence infernale des battements de mon cœur. Puis, je sors de la salle de bain d'un pas déterminé. Mon appartement, qui me semble depuis toujours grand et luxueux, me paraît tout à coup très exigu. On y respire à peine. Je donnerais tout pour me retrouver ailleurs, n'importe où. Toutes sont là, proches et amies. Elles affichent un visage attristé, sincère pour la plupart. Je n'arrive pas à croire que c'est confirmé, que ce que je crains depuis des années a fini par arriver, que je vis maintenant mes pires cauchemars. Je voudrais ouvrir la bouche et hurler ma rage. J'aimerais me réveiller et réaliser que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais, très entourée, je m'avance vers la porte, splendide et hautaine. Non, je ne vais pas me laisser rabaisser. Je lève ostensiblement la tête et adresse un sourire rayonnant à ma belle-sœur qui m'attend au seuil de la véranda. Puis d'une voix assurée, je dis « Félicitations, grande sœur, on a enfin une nouvelle épouse, Baraka. Emmène-moi voir et accueillir notre nouvelle marquise, notre Amaria. » Je vais à Yaoundé. J'ai des affaires urgentes à régler. D'accord. Au fait, j'emmène Ramla avec moi. Quoi? Tu as bien entendu, dit-il froidement. Le 8e jour, c'est mon tour. Mwalande. La lune de miel instaurée par la religion est achevée. Et désormais, Aladji doit se partager entre sa nouvelle épouse et moi. Je m'apprête à revoir mon mari. Quand il m'a annoncé son désir de prendre une nouvelle épouse après 20 ans de mariage, il avait pris une décision unilatérale qui, selon lui, n'avait rien à voir avec ma personne. Il s'en est arrogé le droit et a refusé d'en discuter. Par contre, j'étais libre de refuser cet état de fait. Et en ce cas, il pouvait me libérer. Or, entre son avis de se remarier et son désir de me conserver, il avait déjà fait son choix. Il m'a rappelé que je ferais mieux d'être raisonnable et sage. Ouvre les yeux, Saphira, m'a-t-il dit. La polygamie est normale et même indispensable pour le bon équilibre du foyer conjugal. Tous les hommes importants ont plusieurs épouses. Même les plus pauvres en ont. Tiens, ton père est aussi polygame, non? Si ce n'est pas avec moi, ce sera toujours avec un autre. Jamais tu ne seras seule chez un homme. Si tu étais un peu reconnaissante, tu remercierais plutôt Allah d'avoir été seule pendant toutes ces années. Tu as bien profité de ta jeunesse sans partage. C'est égoïste, à présent, de montrer de l'amertume. Et puis, serais-tu plus sage que le Tout-Puissant, qui a autorisé les hommes à avoir jusqu'à 4 épouses ? Es-tu plus importante que les épouses du prophète, qui ont accepté dignement cette polygamie ? Penses-tu être un homme, pour affirmer qu'on ne peut aimer plusieurs femmes à la fois ? Le 8e jour, c'est mon tour d'être avec mon mari. Il le sait, et a pourtant décidé d'emmener Ramla avec lui en voyage. Le 8e jour. Rasé de près, il vient d'entrer dans mon appartement, vêtu d'une nouvelle gandoura blanche, richement brodée d'argent. Il m'informe froidement de son voyage. Je lui réponds fébrilement. « Tu pars avec elle ?»« Tu n'as pas besoin de répéter ce que je viens de t'annoncer, comme si c'était anormal. »« Et que tu étais surprise. » On dirait presque que je commets un crime. Je te rappelle, puisque tu as la mémoire si courte, que je t'ai offert plusieurs voyages. Tu es allé à Douala il y a à peine 4 mois. Mais je n'ai pas le temps d'en discuter. Je m'en vais. Le vol est dans 1 heure et l'aéroport assez éloigné. C'est mon tour ce soir. Tu es censé être avec moi et non encore avec elle, surtout après une si longue semaine passée ensemble. C'était ton tour chaque jour depuis 20 ans, fait-il. Ne commence surtout pas ce genre d'enfantillage. Tu n'as pas honte de réclamer encore une nuit ? On est mariés depuis combien de temps ? En vérité, tu n'as rien compris. Je suis peut-être polygame, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis un homme libre et je fais ce que je veux. Voilà de l'argent pour les imprévus dans mon absence, dit-il, en laissant tomber sur le tapis une liasse de billets. Je ne sais pas quand je rentrerai. Je t'appellerai. Pourquoi ? Qu'ai-je fait pour que tu me blesses de la sorte ? Pourquoi me brises-tu le cœur ? Et voilà, ça recommence. Le mélodrame te va ravir, ma parole. Mais regarde-toi, Saphira. On a l'impression que tu es en deuil. Regarde comment tu es accoutrée. Et tes yeux ? Depuis quand n'ont-ils pas vu de col ? Tu penses que c'est ainsi que tu vas me séduire ? Tu as intérêt à te ressaisir, et immédiatement. Je n'ai pas le temps d'en discuter pour le moment, mais tu me déçois énormément. Je t'espérais plus digne que ça. On dirait que tu es la première femme à avoir une co-épouse. Ça fait juste 1 semaine que Ramla est là, et regarde-toi. N'importe quoi, ajoute-t-il en voyant mes larmes couler. Tu frises le ridicule. Je n'ai pas envie de m'énerver. Alors, à bientôt. Je suis la Dada Sahare. La nouvelle venue me voue une certaine déférence. C'est une fille calme, introvertie. Dans ses yeux, je surprends souvent une pointe de tristesse que je refuse de voir. Hypocrisie. Elle semble plus à l'aise avec les enfants et bavarde beaucoup avec eux. Ça ne me plaît pas que mes filles l'apprécient autant. Mais je ne peux pas les empêcher d'aller chez leur marâtre au risque de m'attirer la foudre d'Alhaji. En plus, il me faut faire semblant jusqu'au bout. Jamais je ne me montrerai à cette femme que je la déteste. Je suis la Dada Sahari. J'ai expliqué à Ramla le fonctionnement de la grande maison, je l'ai aidé à s'installer dans notre routine, j'ai gardé à chaque fois mon sang-froid et lui ai montré un visage avenant. Je lui ai donné des conseils et me suis rendu disponible. Alhaji a changé, même s'il s'évertue à crier le contraire. Il est beaucoup moins posé, ne m'accorde plus autant de temps qu'auparavant. Quand mon tour arrive, il se montre moins attentif, semble ailleurs. Et puis, il ne me plaît pas de voir les comprimés qu'il avale, ces fortifiants et ces aphrodisiaques dont il dépend désormais. J'ai fini par m'habituer à le partager. L'insomnie des débuts pendant les tours de l'autre, les crises de larmes et mon dégoût quand il me touche se sont estompés au fil du temps. Mais ma détermination n'a pas faibli. Je veux toujours que tout reprenne comme avant. Il faut seulement que Ramla parte. Il ne faut surtout pas qu'elle tombe enceinte. Chaque enfant qu'elle aura ne fera que diminuer l'héritage des miens. Le nouveau rejeton ne pourra que restreindre l'amour que leur porte leur père.